Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, aujourd'hui dans l'interview nous recevons Laurent Accorsini, bonjour.
Bonjour.
Laurent Accorsini, tu es ici pour nous parler d'un thème plutôt rare, celui du veuvage précoce.
Oui.
Voilà, et donc tu tenais à porter un témoignage en premier lieu, et puis aussi de peut-être de mettre en place, en quelque sorte, des sets de paroles. Et donc sur quand même cet aspect précis du veuvage précoce.
Oui, c'est ça. Oui, donc moi j'ai 45 ans. J'habite à Montméran, entre Valence et Crès, et j'ai perdu en fin 2019 ma compagne de cancer, mon ex-compagne évidemment. Elle avait à l'époque 38 ans et j'en avais 42. Et donc oui, ça a été évidemment un choc énorme. On a du mal à imaginer ce que ça peut être. Tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir vraiment. Hein. Même les gens les plus empathiques, ils ne sauront jamais comment on se sent. Et donc j'ai fait un gros travail sur moi, ça va faire 4 ans là, fin octobre. Et je suis ici donc, pour témoigner de ce que j'ai vécu, mais aussi pour proposer aux gens qui ont vécu un deuil similaire au mien, c'est-à-dire perdre quelqu'un, un compagnon ou un partenaire trop tôt dans leur vie, de éventuellement me contacter s'ils en ont besoin ou de proposer des cercles de parole chez moi à Montméran ou bien ici à Die, si quelqu'un est prêt à me laisser une salle ou à louer ou tout simplement me la laisser comme ça à titre gratuit, parce que je me rends compte que je ne suis pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul si vous êtes concerné, et que c'est qu'en partageant votre drame avec d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires que vous sortirez de l'isolement, vous vous sentirez plus fort, plus forte, et vous arriverez à aller de l'avant, parce que sinon c'est très très compliqué.
Il y a un point de départ, est-ce qu'on part justement
oui.
De l'état de veuf
oui.
directement? Et déjà, c'est un choc.
Oui, c'est un choc. Hein.
Et comment reprendre pied dans ces conditions
Et
quelle est la première impression déjà?
Oui, c'est au début, on est dans le déni total. On a l'impression que la personne n'est pas là, elle est juste en voyage, un long voyage, qu'elle va revenir tôt ou tard. On fait des gestes dans le vide, comme ça, comme pour la prendre, comme pour essayer de l'enlacer, de la caresser. Et puis petit à petit, on se fait une réalité. Hein. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'elle n'est plus là et qu'on ne pourra jamais plus danser avec elle, l'enlacer, lui faire l'amour, lui parler, sourire avec elle, partager la vie en fait en général. Et ça, c'est un choc. C'est une des expériences les plus cruelles qu'on est amené à vivre en tant que Européen de l'Ouest, j'ai envie de dire, parce qu'ici, on vit bien. Moi, j'étais en Espagne à l'époque, mais bon, peu importe. On est quand même dans des sociétés où on vit plutôt bien. On n'a pas à se plaindre par rapport à plein d'autres choses qui se passent dans le monde. Et donc, on n'est pas habitué à vivre ce genre de drame. Et voilà. Donc, au début, on est dans le déni. Après, on prend conscience de la réalité. Et puis, j'ai envie de dire que pour s'en sortir, il faut surtout s'entourer, continuer à sortir, continuer à maintenir une routine. Et moi, malheureusement, juste après son décès, j'ai vécu le confinement avec le Covid. Donc, c'était un double drame, j'ai envie de dire. Et il faut absolument se pousser à sortir de chez soi, à voir des gens, à voir ses amis, à continuer à faire des choses. Parce que sinon, c'est pire. On rentre dans un cercle vicieux.
Les amis viennent aussi directement pour vous seconder, pour vous soutenir, je suppose.
Oui.
Il y a déjà ce contact existant.
Oui.
Mais est-ce que vous avez senti tout d'un coup un vide aussi de ce côté-là, de connaissances, de personnes.
Oui, tout à fait. J'ai été très déçu par quelques personnes, des connaissances, voire des amis, voire des membres de ma famille, parce qu'on n'est pas habitué dans nos sociétés actuelles à parler du deuil, de la mort, et les gens ne savent pas comment se comporter, en fait. Et même moi, je pense que si j'avais vécu, si j'avais eu un ami qui avait perdu sa compagne, ou son compagnon, bah, j'aurais sûrement pas su comment réagir et comment et quelle chose dire et quelle chose faire. Et donc c'est pour ça que je souhaitais aussi en parler, parce qu'il faut absolument que ça change, il faut absolument qu'on en parle plus souvent. Parce que voilà, on est nombreux, je ne suis pas le seul évidemment, et les gens sont souvent maladroits, ou trop discrets, trop silencieux, ils ne savent pas quoi dire, quoi faire, et c'est d'autant plus dur, hein, parce qu'on s'attend à avoir plus de support de leur côté.
Il existe Café Mortel actuellement aussi, qui fonctionne très bien. Et justement, il y avait ce moment de dialogue qu'il manquait. Tu dis, la société nous écarte un peu de la mort. Oui. Et donc, il y a peut-être ce retour à la réalité qui devrait peut-être être... peut-être porté par l'éducation populaire également, puisque au niveau des institutions, c'est un sujet plutôt tabou.
Oui, tout à fait. En France actuellement, le deuil, la mort, c'est encore tabou, c'est encore trop tabou. On ne prend plus le temps de faire le deuil. On vit dans des sociétés qui vont à beaucoup trop vite, en fait. Et du coup, on est complètement chamboulé, alors qu'à une époque... on prenait plus le temps, il y avait plus de rituels, et ça, c'est, il faut qu'on revienne un peu aux sources. Et puis oui, comme pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur les cafés mortels, j'y ai pas encore participé, mais j'irai fin juin à Oust-sur-Scie, à la Labo de Paulette, parce que je tiens vraiment à voir comment c'est, et je sais que là-bas, je pourrai enfin m'exprimer librement, sans choquer les gens.
Voilà. Ça, c'est intéressant, le dernier propos. Tu trouves qu'il y a un manque de liberté d'expression sur ce domaine, sans devoir heurter des sensibilités. Ça rejoint un peu cet aspect tabou.
Oui.
Est-ce que... quel est ce désir qui t'anime à vouloir propager un peu cette parole autour de la mort? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un travail aussi à faire au niveau de la société?
Oui, tout à fait, oui. En fait, prendre conscience de la mort, c'est prendre conscience de la vie, finalement. On ne se rend pas compte à quel point la mort est tabou, la mort est... On n'en parle pas assez, c'est complètement, c'est encore trop flagrant, et on se rend compte, j'ai envie de dire grâce à ces drames, ce genre de drames, que la vie est magnifique, qu'on a une chance inouïe d'être en vie, d'être en bonne santé et de continuer à vivre malgré ce qui est arrivé, et c'est une des leçons de vie de ce qui s'est passé en fait. Et oui, en effet, on ne parle pas assez de la mort, et j'ai pu choquer des gens en leur parlant, ou des gens se sont éloignés de moi. En connaissant mon histoire, mais voilà, encore une fois, j'essaie de ne pas les juger, parce que moi, peut-être que j'aurais réagi de la même manière, je ne sais pas.
Donc, ça s'est passé en 2019, oui. Quasiment systématiquement, tout de suite après, le Covid est apparu.
Oui.
Est-ce que tu avais déjà commencé, quand même, à ce moment-là, à établir des liens? Est-ce qu'ils ont été suspendus, justement, à cause de cette pandémie?
Oui, ben justement, donc ça s'est passé en Espagne, en Catalogne. Après son décès, je suis reparti 2 mois en France, chez mes parents. Et ensuite, j'ai senti le besoin de revenir aux sources, c'est-à-dire revenir dans la ville où on avait choisi d'aller vivre avec mon ex-compagne et d'avoir des enfants, notamment. Donc, on n'a pas eu d'enfants à cause, notamment, de son cancer. Ça, c'est un grand regret. Quand je commençais tout juste à revoir mes amis, à commencer une vie sociale qui était très importante à ce moment-là pour ne pas succomber, enfin ne pas sombrer dans l'abysme, il y a eu le premier confinement à cause du Covid. Et donc là, ça a été vraiment très, très dur parce que j'avais plus de contacts sociaux, j'avais juste des contacts par téléphone ou sur visio. Et on ne se rend pas compte à quel point le lien social est important dans ces cas-là, quoi. C'est vraiment la base de tout. Et j'avoue qu'au bout du 1e confinement, parce qu'en Espagne ça s'est passé comme en France, hein, ça a duré évidemment, j'ai failli commettre l'irréparable pendant une semaine. J'habitais à l'époque dans un appartement au 3e étage, et pendant une semaine j'ai eu l'impression que j'allais sauter dans le vide. Bon, heureusement je ne l'ai pas fait, je sais que je ne l'aurais jamais fait, mais j'ai eu quand même cette sensation qui a été très désagréable et que je n'ai jamais ressentie avant. Parce que ça aussi, il faut en parler, on a peut-être, en tout cas moi je l'ai vécu, à un moment donné, peut-être envie de partir aussi. Tellement c'est dur, tellement c'est c'est insoutenable. Et puis heureusement, j'ai tenu le coup, quoi.
Vous exercez, vous avez une activité, j'imagine, ce qui vous permet aussi de pouvoir avancer.
Oui, alors à l'époque, quand mon ex-compagne est décédée, j'étais assistant commercial. Ça faisait très longtemps que j'étais très très stressé, j'en pouvais plus de travailler dans ce domaine-là. Et quand elle a été malade, j'ai quitté mon poste de suite, je l'ai accompagnée dans la maladie. Et quand elle est décédée, j'ai complètement changé de parcours, j'ai fait une reconversion professionnelle et maintenant je suis professeur de langue multilingue. Et ça, je trouve ça magique parce que on est vraiment dans l'humain maintenant, dans l'échange humain. J'ai eu l'occasion par exemple de donner des cours de français à des Ukrainiennes, des réfugiées ukrainiennes à Valence, c'était un très beau cadeau. Et puis j'ai aussi beaucoup relativisé aussi par rapport à leur drame à elles, parce qu'elles ont, fui des bombes, elles ont fui la guerre, elles ont fui la mort. Et moi, malgré tout, malgré ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai quand même une chance inouïe, parce que je mange à ma faim, je bois comme je veux, j'ai un toit, j'ai un travail, rien à voir. Et donc ça, c'était important aussi de les connaître et de les aider aussi dans leur envie de refaire leur vie en France. Et voilà. Et puis j'aspire peut-être avec le temps à devenir peut-être coach spécialiste en deuil précoce, j'en sais rien. C'est des idées que j'ai actuellement. Parce que je me sens maintenant que j'ai passé tout le processus de deuil, d'aider les gens. Je me sens assez fort pour les aider dans ce parcours et pourquoi pas justement me consacrer à ça toute la semaine.
Lors de ce confinement, est-ce que vous avez eu la possibilité, vous disiez, d'avoir des contacts en visioconférence ou par téléphone, mais est-ce que cela vous a permis aussi à prendre de contact avec cette idée du veuvage précoce? Est-ce que vous avez pu rencontrer des personnes qui vivaient la même passion que vous?
Malheureusement, non. J'ai appelé les quatre psychologues qui habitaient dans la ville où j'habitais à l'époque. Et deux m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment m'aider, donc c'est quand même assez incroyable. Et deux autres m'ont dit, je vais bien vous prendre, mais sachez que voilà, le temps de deuil, c'est tant de temps, etc. Je ne saurais pas trop comment vous aider. Donc voilà, en gros, ça a été un choc aussi à ce niveau-là, parce que je n'avais pas de ressources. Et donc, je n'avais pas non plus de ressources de lecture. Par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait pratiquement aucune ressource en Espagne, en France, par rapport au veuvage précoce, et c'est pas normal. On parle beaucoup du deuil en général, enfin, on parle de plus en plus du deuil en général, mais pas assez souvent encore du deuil précoce. Et il faut absolument qu'on en parle plus souvent, parce qu'on a des statistiques cachées, on n'en parle jamais.
Vous vous êtes renseigné justement sur ce qui existait dans ce domaine du veuvage précoce, quelles offres étaient proposées en France, que ce soit par solidarité notamment.
Oui, enfin, je me suis renseigné, mais en fait il y a très peu d'ouvrages. Et donc j'ai eu l'idée d'écrire un livre. Et donc ce livre, j'espère, verra le jour, sera édité, j'espère, l'année prochaine, en début d'année, pour aider justement les endeuillés précoces à essayer de moins souffrir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer par tout le processus de deuil, parce que ça, c'est inévitable. Mais j'espère qu'en lisant mon récit, ils réussiront ils parviendront à trouver des petites astuces, des petits conseils pour moins souffrir au jour le jour, en fait. Donc j'espère que ce livre verra le jour bientôt.
Le veuvage précoce aussi vous met dans une situation nouvelle, c'est-à-dire un avenir incertain. Vous aviez peut-être des envies en tant que couple. Oui. Donc vous parlez de notamment faire des enfants. Oui. Tout ça est mis à plat, à zéro. Comment retrouver un substitut à ce désir qui a été finalement coupé?
J'ai la chance d'avoir des neveux et une nièce que je ne vois pas souvent, mais qui m'ont quand même aidé à aller de l'avant. Et puis, j'ai côtoyé aussi beaucoup de familles qui avaient des enfants. Donc, quelque part, ça m'a fait aussi beaucoup de peine parce que ça me renvoyait ce que moi, je n'avais pas à l'époque. Et en Espagne aussi, ici dans la Drôme, depuis que je suis arrivé en novembre 2021. Mais c'est aussi une manière à moi d'aimer d'autres enfants que je n'ai pas eu, en fait, parce que j'aime beaucoup les enfants. Mais c'est vrai que c'est aussi très dur, enfin surtout au début, un peu moins maintenant, mais au début, c'était très dur de voir des familles heureuses avec des enfants, avec une vie normale, une vie comblée a priori, chose que moi, je n'avais pas en fait.
Ça vous a pris assez vite d'essayer de trouver cette main pour ce que vous viviez à ce moment-là, où avec les complications du Covid, ça ne devait pas être évident. Mais est-ce que cela a pris du temps et est-ce que ça vous a permis justement peut-être de tourner une page également ?
De retrouver quelqu'un, vous voulez dire ou...
Non, de peut-être avoir moins de poids, peut-être de vivre ce poids de veuvage.
Oui, bah, j'ai utilisé beaucoup de techniques, donc forcément mes amis, mon entourage, mon réseau social. Et puis j'ai fait aussi un stage d'équithérapie, enfin j'en ai fait plusieurs, en Espagne et en France, qui m'ont beaucoup aidé aussi. Donc je pousse les gens qui ont vécu ce que j'ai vécu à ne pas hésiter à se mettre en contact avec des chevaux, c'est très bon. Vous allez beaucoup pleurer sûrement, mais ça va vous faire un bien fou, parce que les chevaux sont très sensibles, comme vous le savez. Et puis aussi de vous entourer de chiens, de chats, ne serait-ce qu'être avec eux, les caresser, ça donne aussi beaucoup de paix, d'apaisement. Et voilà, il ne faut pas qu'ils hésitent. Il y a des ressources et puis il y a aussi des cercles de parole. J'y ai participé à Valence en début 2022, mais j'étais pas à mon aise et je me rendais compte que c'était des personnes âgées surtout qui étaient là. Et encore une fois, parce qu'il y a très peu de gens qui vivent ce que j'ai vécu quand même. Et puis je me rendais compte que j'étais à un moment du processus de deuil beaucoup plus avancé qu'elle, donc je voyais pas trop l'intérêt de continuer. D'où l'intérêt justement de faire, de proposer, d'organiser des cercles de parole pour endeuillés précoces seulement. Donc voilà.
Et ces rencontres vous ont pris conscience d'une situation plutôt courante,
oui.
Et qu'on ne devine pas.
Oui. Il y avait quand même 2-3 personnes qui avaient mon âge à ce moment-là dans le cercle, et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres partout en France, et notamment dans la Drôme et l'Ardèche. Et à Die, à Cré, je trouve que les personnes sont plus réceptives qu'ailleurs, qu'à Valence par exemple, j'ai l'impression. D'où mon envie de venir ici à Die faire l'émission. Et puis j'irai aussi à Cré au mois de juin, à la radio de Cré. Parce que je trouve qu'ici, les gens sont plus réceptifs à mon témoignage. Et je pense que je peux trouver plus de personnes aussi qui soient prêtes à sortir de l'ombre et de participer à ces cercles de parole.
Vous êtes en préparation d'un livre. Il va certainement décrire votre expérience personnelle. Et est-ce qu'il y a aussi celle des autres, peut-être au fil des rencontres? Est-ce que vous opérez en quelque sorte aussi une synthèse et des interrogations sur ce qu'il y aurait à faire?
Oui, en fait, le livre, en gros, ça va être... J'ai brièvement parlé de mon histoire, parce qu'évidemment, je veux que ce livre arrive dans les mains d'endeuillés précoces, donc je ne vais pas non plus raconter une histoire qu'eux, ils connaissent trop bien, malheureusement, de souffrance, de tristesse et de désarroi total. Mais je me servirai de mon histoire pour leur donner des conseils, des astuces, comme je disais. Et oui, et de m'inspirer de personnes que j'ai connues récemment pour aller de l'avant, justement. C'est le livre que j'aurais voulu avoir, en fait, quand mon ex-compagne est décédée, en fait. Et que je ne trouvais pas, tout bêtement. Alors, ça peut paraître naïf pour certains, mais c'est mon humble expérience, et je me sens légitimé pour le faire. Je suis sûr que ça va aider en fait, les gens, peut-être pas tous les conseils, toutes les astuces, mais je suis sûr qu'un bon nombre de conseillers d'astuces vont aider les gens, ne serait-ce que pour se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls au monde, et qu'ils peuvent sortir de leur isolement, et que grâce au cercle de parole, ils pourront parler de leur histoire, pleurer comme ils veulent, parce que pleurer, c'est encore un tabou. Les gens n'osent pas pleurer en société, par exemple. Moi, j'ai eu la chance de pleurer très facilement devant les gens, seul. Et ça m'a sauvé, bon, je pense. Il faut vraiment exprimer ses émotions, quoi. Faut pas hésiter. Même quitte à ce que les gens vous jugent, vous vous en fichez, quoi. Vous avez vécu quelque chose de très dur, de dramatique. Il faut lâcher prise, il faut laisser aller. Et que peu de temps après... le décès de mon ex-compagne. J'ai d'ailleurs participé à un atelier d'écriture qui m'a beaucoup aidé en fait à l'époque, parce que évidemment c'était les tout premiers mois, et je me suis senti protégé dans ce groupe et j'ai beaucoup ému les gens avec mes récits, avec mes notes, et voilà, je pousse les gens à écrire aussi tout ce qu'ils veulent. Au début, écrivez à votre ex-conjoint ou à votre ex-partenaire. N'hésitez pas à lui écrire si vous avez envie. Et avec, par la suite, voilà, écrivez toutes sortes de choses, mais écrivez. N'hésitez pas à écrire, c'est thérapeutique, ça soulage. Vous souffrirez un petit peu moins.
Donc vous êtes en recherche aussi d'un lieu surdit ou le Diwa, afin de partager un peu ces expériences, ces douleurs. Ça s'adresse particulièrement aux veuvages précoces. Hein. C'est un souhait parce que qu'est-ce qui détermine ce critère pour vous ? C'est la jeunesse encore de la vie.
Voilà, hein, c'est le choc de la nouvelle. On peut pas, moi. Me dire que je dois accepter que mon ex-compagne est partie à l'âge de 38 ans, quelque part, jamais je vais l'accepter. Les thérapeutes de deuil disent que tant qu'on n'a pas accepté, on ne peut pas faire un deuil complet. J'ai envie de dire, c'est faux. Moi, je me suis résigné, je me suis fait une idée. Bon, elle n'est plus là, c'est évident. Maintenant, c'est clair dans ma tête. Mais quelque part, jamais j'accepterai qu'elle soit partie à 38 ans alors qu'elle était dans la fleur de vie et qu'elle adorait la vie, qu'elle était souriante, qu'elle adorait sa vie et la vie en général. Avec un très cultivé, très bien dans sa peau, vraiment assez, complètement injuste et cruel. Et donc c'est ça qui, c'est le choc de, c'est complètement illogique en fait, alors que le deuil en général, quand on perd son conjoint, qu'on a 70, 80, 90 ans, voire plus, j'ai envie de dire, c'est un drame aussi évidemment, hein, je dis pas que c'est pas un drame.
C'est relatif.
C'est relatif, oui. Mais c'est dans le logisme de la vie, quoi, c'est... c'est une autre façon d'aborder les choses.
Vous avez échangé aussi avec des personnes qui vivent votre situation également.
Oui.
Et ça, c'est... comment s'amorcent ces rencontres ? C'est le hasard ou alors il y a une volonté à établir ces contacts ?
C'était un peu le hasard ou aussi un peu la volonté de connaître des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu. Je n'ai connu certains de vive voix, enfin directement. D'autres, je sais qu'ils sont dans la région, mais je ne les ai pas encore connus vraiment. Mais ça m'a aidé aussi à moi, au départ, à me sentir moins seul aussi. Et puis à échanger aussi par rapport à leurs émotions. Certains sont déjà de nouveau en couple. Ça me faisait bizarre au départ. J'avais tendance à les juger parce que je me suis dit comment c'est possible après à peine quelques mois. Mais en même temps, si leur cœur parle à ce moment-là, et si c'est les émotions qui parlent et les cœurs... et c'est clair dans leur tête, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tant que ce n'est pas une nouvelle relation pour combler celle qui n'est plus, j'ai envie de dire oui, allez-y, foncez.
Quand vous avez vécu ce malheur, est-ce que, du point de vue des institutions, on vous a aiguillé justement sur des possibilités de pouvoir dialoguer ou d'aller à la rencontre de personnes comme vous ? Est-ce que vous trouvez dommage qu'il y ait cette carence de propositions sur le soutien à apporter aux veufs ou veuves ?
Oui, alors c'est un drame parce que justement, personne dans la société n'est prêt pour ce genre de drame. Mon ex-compagne donc s'est donné la mort, on était ensemble à ce moment-là, hein, c'était pacté, hein, c'était un suicide assisté. Elle a pris un produit, elle est partie sans souffrir. Après il y a eu les gendarmes locaux qui sont venus, le médecin légiste. Ces personnes-là ne sont pas du tout prêtes à vous donner vos condoléances en fait, leurs condoléances pardon. On sent qu'il n'y a aucune émotion dans leurs paroles et c'est très dur. Après, j'ai été chercher un certificat de décès à la mairie de la ville où j'habitais, où on habitait. Et pareil, la secrétaire n'était pas du tout, pas du tout eu la réaction que j'attendais. Elle m'a parlé comme si je venais chercher un certificat pour ouvrir un bar, en fait, une licence pour ouvrir un bar ou un restaurant.
Une formalité administrative, voilà. Tout simplement.
Et ça, c'est choquant. Voilà. On ne se rend pas compte à quel point c'est choquant pour les personnes qui restent, d'être seules au monde et de se rendre compte qu'en fait... aucun acteur de la société n'est présent et n'a les bons mots pour vous soulager, vous consoler un peu quand même.
Ça, c'est en Espagne. Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience de ce type en France aussi, lors de vos rencontres, des échanges avec d'autres personnes ?
Non, pas spécialement, mais je suis sûr qu'en France, y a aussi, ça se passe aussi comme ça, plus ou moins. Les gens de nos jours ne sont pas prêts, en fait. Il n'y a aucun acteur qui est prêt à... Quand vous voyez qu'un médecin n'a a très souvent très peu d'émotions quand il donne des mauvaises nouvelles. Ça ne m'étonne pas que les autres acteurs de la société sont comme ça. Mais il faut vraiment il faut faire un, des formations par rapport à ça, pour que oui, on se sente un peu plus épaulé quand on a, quand on vit ça, parce que c'est encore plus choquant.
Donc, vous êtes en recherche d'un local, hein, en quelque sorte,
oui.
Ou d'un lieu qui voilà. puisse accueillir ces cercles de parole. Vous oui. avez un souhait de fréquence
J'y ai pas encore trop pensé, mais oui, une fois par mois, par exemple, on pourrait parler de plein de thèmes différents. Ce serait un cercle où chacun pourrait être amené à s'exprimer librement, à pleurer, à quitter le cercle si jamais c'est trop dur. Il y a plein de formules possibles. Voilà.
Est-ce que vous privilégiez le contact humain, direct, oui. plutôt que de passer par un blog, par exemple,
oui.
qui permet d'échanger aussi des émotions, oui. des intentions?
Je préfère largement plus un contact direct, parce qu'avec ce qu'on a vécu avec le Covid, on se rend compte que c'est bien beau, les visios, mais on a besoin de contact humain. On est dans les sociétés actuelles, on ne se touche plus, on ne s'en lasse plus, enfin, on s'en lasse de moins en moins, etc. Et c'est pas... Il faut venir aux vraies valeurs, et d'autant plus quand on a un endeuil précoce. Hein, il faut absolument pouvoir enlacer les gens quand ils en ont besoin, leur donner des mots de soulagement, parce que c'est là qu'ils en ont le plus besoin.
Pour prendre contact avec vous, comment peut-on opérer?
Alors, je peux vous laisser mes coordonnées. Oui. Donc, je m'appelle Laurent Accorsini, A-2-C-O-R-S-I-N-I. Mon email, c'est Laurent Accorsini, donc tout attaché en minuscule, le chiffre 7, @gmail.com. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 30 14 06 99. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message, et puis je répondrai avec plaisir le plus rapidement possible.
Vous avez déjà établi des liens un peu avec quelques personnes du territoire, du Diwa par exemple?
Du Diwa, pas trop, plutôt à Cré.
Plutôt à Cré, oui.
D'ailleurs, je ferai aussi une émission à Cré, comme je vous ai dit. Mais voilà, j'aime beaucoup les gens du Diwa. J'ai connu des gens du Diwa grâce à des cercles, des printemps de la parole, été de la parole, où on a fait de l'écriture, de la danse, des feux en forêt. C'était très beau, hein, c'était beaucoup de reliance à soi. Et c'est pour ça aussi que je voulais venir à Die, parce que je sens qu'ici, il y a plus de... les gens sont plus sensibles sur ce thème-là.
Cela fait 4 ans maintenant.
3 ans et demi, oui.
3 ans et demi. La douleur s'est amenuisée.
Oui.
Et il y a toujours un poids quand même que vous avez en vous
oui.
et qui vous pousse peut-être à aller vers les autres également pour
oui.
échanger hein, sur cette douleur qui est peut-être plus diffuse mais
oui.
qui est toujours présente.
Oui, alors évidemment, avec le temps, heureusement, le temps, c'est une notion qui est à la fois très dure parce qu'on se rend compte c'est un luxe, on a un temps peut-être infini, enfin infini non, mais on a beaucoup d'années devant nous sans notre être aimé. Et en même temps, le temps permet aussi d'aller de l'avant finalement. Le temps passe et petit à petit, on réussit à sortir de cette période de survie pour petit à petit reprendre goût à la vie en fait. Et oui, j'ai envie de dire que les gens soient patients, ils vont beaucoup souffrir, mais ils vont s'en sortir parce que finalement, la vie, l'amour reprend le dessus finalement face à la mort, au désarroi, au vide, à la colère, toutes ces émotions négatives et tellement dures qu'on vit surtout au début et au fur et à mesure du processus, mais qui s'estompent avec le temps, heureusement. Et c'est pour ça que j'ai envie de donner mon aide aux gens parce que je me sens maintenant plus fort. Grâce à ma résilience, grâce à ma forteresse intérieure. Et on ne se rend pas compte à quel point on est fort, en fait, tant qu'être fort est la seule solution. Voilà.
Vous parlez de forteresse. Est-ce que vous avez dû vous constituer une défense vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi?
Oui, au début, j'ai surtout évité les coiffeurs, les restaurants, les bars où on parle beaucoup, enfin, il y a beaucoup de conversations superficielles, finalement. Ça me faisait beaucoup de mal. Voilà, les gens sans culture, les gens grossiers, les gens peu empathiques, évidemment, hein, ça faisait beaucoup de mal aussi. Je me suis vraiment entouré de gens bienveillants, de gens empathiques, qui étaient disposés à m'aider, qui ont utilisé les bons mots. J'ai pas hésité à ne plus parler pendant un temps à certains membres de ma famille. Puis après, je leur ai pardonné, parce que finalement, le pardon, c'est aussi important. Hein, pardonner aux gens, des fois, ils sont maladroits, mais ils ne le font pas exprès. Pareil avec des amis hein, ou des connaissances. Voilà. Il faut essayer de se créer une bulle tout en restant ouvert, comme je disais avant, maintenir une routine, se lever tôt le matin. Par exemple, moi, dès le premier jour, je n'ai pas hésité à me lever tôt le matin. Jamais un jour, je suis resté dans mon lit à me morfondre là, à pleurer des heures et des heures, parce que je savais très bien que de toute façon, ça n'allait pas changer les choses. Et donc, je me suis forcé à me lever. C'est pas pour autant que je n'ai pas souffert dans la journée, évidemment, mais au moins, bah, j'avais une routine. Je me levais, je me douchais, j'allais voir des amis, je travaillais, etc. Et ça, ça permet de maintenir le cap et d'aller de l'avant petit à petit, quoi.
Un chemin plein d'embûches, tout de même.
Oui.
Et donc, il y a cette volonté hein, qui vous emmène, quand même. Oui. Est-ce que vous avez aussi cette volonté à pouvoir statuer, quand même, cette situation de veuvage précoce? Est-ce qu'il y aurait aussi une action que vous mèneriez pour une reconnaissance au point de vue des institutions? Et pour cela, je suppose que vous vous êtes documenté et qu'il y a très peu de choses existantes.
Oui. Il y a très peu de choses existantes, donc j'ai envie de créer une association, par exemple à Cré, puisque je suis quand même plus proche de Cré, d'endeuillé précoce, puisqu'apparemment elle n'existe pas, d'après mes recherches. Ça serait une occasion d'avoir une entité, de se reposer là-dessus, et d'être avoir plus de voix, en fait, être plus facilement entendu. Donc voilà, ce serait une possibilité. Le livre qui va voir le jour, j'espère, l'année prochaine. J'ai fait appel l'an dernier à un coach en thérapie, en psychologie positive, pardon, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis de prendre conscience du fait que c'était un accident de la vie, finalement, ce qui s'est passé, et qu'il y en a des millions dans le monde chaque jour. Un accident de la route, une maladie, une guerre, et que c'est comme ça, on ne peut rien y faire. La mort est plus forte que nous, on n'est pas surhumain. Donc il faut bien se faire une raison, même si ça fait très très mal, nous on a encore envie, et à nous de choisir quelle vie on veut vivre. Si on veut s'abandonner, se laisser aller et partir aussi, ce qui n'a aucun sens, parce que c'est pas ce qu'aurait voulu nous être notre ex-compagne ou ex-compagnon, ou bien si on veut mener une vie la plus digne possible, la plus décente possible, et parce que je vous assure que vous allez revivre des moments de bonheur, vous allez rire de nouveau, vous allez sourire à la vie. Tôt ou tard, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous verrez que petit à petit, vous allez franchir des caps et peut-être aussi retrouver l'amour. Moi, je commence à avoir envie d'être de nouveau en couple, c'est mon signe. J'ai connu récemment une personne je me suis enfin ouvert au niveau du cœur, c'est très beau. Bon, c'est pas réciproque apparemment, mais c'est pas grave, c'est une très belle rencontre et ça va être une amie. Et voilà, j'incite les gens à croire de nouveau en eux, il faudra qu'ils apprennent à se réaimer, j'ai envie de dire, avant de pouvoir aimer de nouveau quelqu'un, parce que là aussi on est seul au monde, on est comme un petit enfant qui cherche sa maman, en fait, hein. c'est vraiment une sensation très très désagréable. Donc j'incite les gens à apprendre à s'aimer de nouveau et avant de pouvoir de nouveau aimer. Je suis sûr que vous retrouverez quelqu'un si c'est le cas.
Ça va mieux ?
Oui, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, j'ai envie d'aider les autres, justement.
Laurent Accorsini, en tout cas, merci d'être venu sur RTVA pour nous parler donc de ton veuvage précoce et de ce désir de proposer des cercles de parole mensuels, hein, pour oui. Commencer, sur le Diwa. Et je te souhaite une bonne soirée.
Merci, à très bientôt, au revoir.
Au revoir.
came, and now someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. Speak to me, my heart is free, my love has gone away. Tell me true, my heart is blue, my love has gone away. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, no, someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you.